Et l'on reparle de l'affaire Vincent Lambert. Vous l'avez probablement entendu, la cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements. Les soins avaient été interrompus lundi matin. La justice ordonne leur rétablissement jusqu'à ce qu'un comité de l'ONU se prononce sur le fond du dossier, écrit le journal Le Monde, pour parler des aspects tout d'abord médicaux et éthiques de ce cas de l'affaire Lambert et plus généralement des patients qui sont également dans cet état. Régis Aubry, bonjour. Bonjour Régis Aubry.
Bonjour.
Vous êtes médecin-chef du département douleurs, soins palliatifs du CHU de Besançon, président de l'Observatoire national de la fin de vie et membre du comité consultatif national d'éthique. Vous êtes en duplex avec nous. Et tout d'abord, une première question, sans se prononcer sur les aspects, je dirais, juridiques de cette affaire, que vous inspire ce dernier coup de théâtre ?
Écoutez, je pense que c'est quelque chose qui suscite un peu une forme d'incompréhension, ce revirement finalement de la justice française pose des questions sur le fonctionnement même de la justice. Bien entendu, j'ai compris en lisant et en écoutant les attendus de cette décision que finalement la question du respect du droit des personnes handicapées est au cœur de cela, qu'il s'agit d'analyser les attentes du comité de l'ONU responsable de la protection des personnes handicapées. Il est évident que ceci est important, le respect des personnes handicapées, mais l'image que l'on a, le néophyte que je suis par rapport au fonctionnement de la justice, est assez étrange, c'est-à-dire que une décision qui avait été prise, confirmée par les plus hautes autorités, le Conseil d'État en l'occurrence, est remise en question par la Cour d'appel de Paris. Ceci me paraît un peu étrange et j'imagine que finalement ces arguties juridiques oublient l'objet de ces arguties qui est une personne pour laquelle depuis 10 ans il y a des discussions complexes sur une situation très inédite.
Situation inédite et j'ai l'impression que tout le monde est un peu perdu dans cette affaire. Il est extrêmement compliqué de se faire une opinion. C'est la raison pour laquelle nous vous avons convié, Régis Aubry. Finalement, pour vous, que faut-il faire vis-à-vis de Vincent Lambert si on met de côté les aspects juridiques ?
Alors, je voudrais d'abord peut-être préciser que Vincent Lambert, de mon point de vue en tout cas, présente une situation de handicap maximum imaginable. C'est quelqu'un qui est empêché via l'altération profonde de sa conscience de toute mobilité, de toute possibilité de communiquer. Et que se pose la question du maintien artificiel de la vie dans le cas, et dans le cas particulier de Vincent Lambert. J'insiste pour dire que les réflexions que nous avons là, autour d'une personne, sont des réflexions singulières. Ce sont des réflexions qui doivent prendre en compte pas tant les aspects médicaux. Finalement, Vincent Lambert a une altération profonde de son fonctionnement psychique, mais il n'est pas malade en tant que tel. Il présente un handicap maximum. Et donc, cette question de la pertinence de maintenir artificiellement la vie chez Vincent Lambert au moyen d'une nutrition artificielle et d'une hydratation artificielle est une question qui doit se poser. La réponse ne peut pas être normée. On imagine mal, et je pense que c'est l'inquiétude de ce comité de protection des personnes handicapées de l'ONU, on imagine mal une réponse qui serait normée, standardisée, disant soit il faut réanimer toutes les personnes qui sont en état végétatif chronique, il faut les maintenir en vie toutes, ou inversement, il faut arrêter tout maintien en vie artificiel chez toutes ces personnes. Ce sont des histoires singulières. Et donc, pour revenir à Vincent Lambert, la décision qui avait été prise par son médecin faisait suite à une analyse du parcours de Vincent Lambert, de son histoire, de ce que l'on peut dire de ses convictions, de ses références personnelles qu'il avait exprimées au fil de son existence consciente, entre guillemets. Et cette décision d'arrêt de ce qui le maintient artificiellement en vie avait été prise eu égard à son histoire personnelle et ses convictions personnelles.
Mais alors, là aussi, deux visions s'affrontent dans cette affaire, Vincent Lambert. Régis Aubry, l'une des deux, explique que ça n'est pas un maintien en vie artificiel, puisque finalement, il est hydraté, on lui donne de quoi s'alimenter, mais il n'a pas de traitement médical, il n'a pas de machine qui lui permet de survivre. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je sais que ceci se discute. Ça avait d'ailleurs fait l'objet lors des débats parlementaires en amont de la loi Claeys-Leonetti de 2016 de pas mal de débats. Il est convenu aujourd'hui de considérer qu'une nutrition artificielle est différente de l'alimentation. Une nutrition artificielle consiste à administrer via un tuyau qui est branché dans l'estomac de la personne une nutrition artificielle sous forme de d'une espèce de perfusion. C'est en cela que l'on parle de traitement. Finalement, c'est un traitement en ce sens qu'il nécessite une prescription médicale, une adaptation. De la même manière, on administre de l'eau, certes, mais avec ce qu'on appelle des ions, du potassium, du sodium, etc. Et donc, il y a quelque chose d'artificiel dans ce maintien en vie. C'est pourquoi on parle de traitement. Ce qui est différent, parce que j'entends souvent cet amalgame entre traitement et soin. Il ne s'agit pas d'arrêter des soins chez Vincent Lambert. Il s'agit d'arrêter des traitements, ou en tout cas ce que le droit français considère comme des traitements, incluant donc cette nutrition et hydratation artificielle. Les soins, quant à eux, qui s'imposent, et plus encore lorsqu'on arrête des traitements, doivent être poursuivis. C'est ce qu'on appelle, en l'occurrence, des soins palliatifs.
Mais alors... Toujours de ce point de vue-là, Régis Aubry, vous dites il s'agit d'un traitement parce que c'est de l'eau qui est de l'eau enrichie, parce qu'on a affaire à une alimentation qui est fournie de manière particulière au vu de l'état du patient. A contrario, s'il s'agit de l'arrêt des traitements, il s'agit d'arrêter d'hydrater cet homme, d'arrêter de l'alimenter. Pourquoi, dans ce cas-là, le monde médical, ou en tout cas ceux qui s'occupent aujourd'hui de lui, n'est pas en face d'une situation qui serait moins hypocrite, entend-on? Pourquoi, par exemple, ne pas lui administrer une piqûre qui mettrait un terme à sa situation si on considère qu'il faut évidemment en venir là? Pourquoi arrêter d'hydrater quelqu'un, ce qui paraît être à la fois une décision discutable, bien entendu, mais aussi une fin barbare?
Alors, je ne sais pas si c'est une fin barbare. Je vais mettre beaucoup de modestie dans mon propos parce que je pense que ce que l'on ne sait pas est plus important que ce que l'on sait là-dessus. Et c'est pour ça que je me méfie aussi des affirmations d'un côté comme de l'autre. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'arrêter la nutrition et l'hydratation artificielle n'équivaut pas à laisser mourir de faim. Là aussi, c'est quelque chose que l'on lit et que l'on entend beaucoup. Et il est aujourd'hui démontré que l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle, au-delà de 24 heures, n'entraîne pas de sensations chez quelqu'un qui serait conscient de faim ou de soif, qui serait source d'une souffrance tout à fait inadéquate. En général, cette situation entraîne une altération progressive des sensations, puis une insuffisance rénale, en quelque sorte, les reins étant moins perfusés, et entraîne une mort douce, en quelque sorte, assez lente, mais une mort douce qui est quand même différent de ce que vous nommiez l'injection d'un produit létal, qui est donc l'administration d'une piqûre qui ferait mourir très rapidement la personne. Laisser advenir la mort qui est naturelle, en quelque sorte, puisque c'est arrêter quelque chose qui est artificiel, n'équivaut pas à faire mourir par une injection létale, qui est une autre forme de barbarie, si je reprends votre terme, en quelque sorte. Je mets de la modestie.
Moi aussi, je m'interroge, autant qu'on peut s'interroger là-dessus, je n'ai évidemment pas d'idées préconçues, mais comme cela fait partie des thèses, l'autre élément qui vient en quelque sorte complexifier ce dossier, c'est cet article que l'on trouve dans Le Parisien aujourd'hui, qui explique qu'il y a une vidéo qui montrerait Vincent Lambert les yeux ouverts puis fermés avec une mobilité de la tête. Est-ce que cela signifie quelque chose pour le médecin que vous êtes, Régis Aubry?
Non, je crois, alors de façon pour le coup moins modeste que ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, que le diagnostic d'état végétatif chronique n'est pas à remettre en question. Il a été confirmé une fois à Liège, dans un centre très pointu sur ces questions, le Coma Science Group de Liège. Il a été ensuite, pour des besoins de la justice, confirmé par des experts lors d'une hospitalisation au centre hospitalier de la Salpêtrière à Paris, puis encore cette année par trois nouveaux experts qui, les uns et les autres, confirment la situation de déconnexion définitive, voire un peu aggravée du psychisme de Vincent Lambert, qui est bien en état végétatif chronique. Mais être en état végétatif chronique, ça signifie que l'on continue à respirer spontanément, que l'on a les yeux ouverts le jour et les yeux fermés la nuit. Ça signifie qu'on a des mouvements réflexes qui continuent à exister, comme un certain degré de déglutition, mais une déglutition qui n'est pas adaptée à l'objet de la déglutition. Mmh. Et donc c'est certainement cela qui a été filmé et qui peut prêter à confusion, voire interroger. Mais je ferai quand même jusqu'à présent confiance à ces experts qui sont nombreux et qui sont venus confirmer cet état dont je viens de vous expliquer la nature.
Mais ce qui peut nous déstabiliser, docteur, c'est qu'on se souvient tous de la définition de la vie par Bichat, qui parle de ces forces qui s'opposent à la mort. Et donc on se dit que cet homme est en vie et que rien, si celui-ci ne nous dit pas quelque chose, et bien entendu il ne peut rien dire dans son état, Vincent Lambert, rien ne peut nous autoriser à tuer quelqu'un qui n'en a pas fait explicitement la demande.
Ah, c'est bien toute la complexité des décisions à prendre concernant des personnes qui ne peuvent, pour le coup, pas exprimer leur avis. Est-ce que maintenir artificiellement en vie une personne est respectueux de cette personne ? Mais à contrario, est-ce qu'arrêter ce qui le maintient artificiellement en vie, c'est-à-dire accélérer la survenue de sa mort, est respectueux de sa personne ? C'est bien dans cet entre-deux que se situe la négociation, la discussion, la réflexion qui doit avoir lieu lorsqu'on prend une décision. Quoi qu'il en soit, toute décision que l'on prend chez une personne en état végétatif chronique est une décision pour autrui et qui n'est pas la décision de la personne. Et donc c'est cela qui est compliqué dans ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle un peu une zone grise dans laquelle l'argumentation ou les argumentations doivent aboutir à une décision qui peut être le maintien de la nutrition-hydratation ou qui peut être l'arrêt de la nutrition-hydratation. Dans le cas de Vincent Lambert, les médecins, les soignants, les proches ont fini par opter pour l'arrêt, la justification de l'arrêt de la nutrition-hydratation au terme de plusieurs processus délibératif qu'on appelle des procédures collégiales, mais pour une autre personne qui serait dans un état similaire ou proche, une autre décision peut être prise.
Et oui, parce que vous parlez de décision pour autrui, mais alors le problème supplémentaire, c'est qu'autour de Vincent Lambert, l'entourage n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Il y a d'un côté les parents, de l'autre la compagne de Vincent Lambert. Dans ces cas-là, vous qui êtes médecin Régis Aubry et qui avez à être confronté quotidiennement à ce type de situation, que fait-on ? Qui écoute-t-on ? La compagne, le compagnon, les parents ? Comment ça se passe ?
Alors effectivement, ce qui fait difficulté dans cette situation de Monsieur Vincent Lambert, c'est le désaccord irréductible entre deux parties de la famille. D'un côté, les parents et une partie de la fratrie. De l'autre côté, l'épouse et une autre partie de la fratrie. Et c'est cette dimension irréductible du désaccord qui conduit à une judiciarisation et à une médiatisation, d'ailleurs, dont on pourrait discuter de l'effet. Mais comment fait-on, c'est la question que vous me posez, pour prendre une décision en cas de désaccord ? Eh bien, ce que l'on essaie de faire, c'est de trouver précisément un accord. Vous m'interrogez au titre de la réflexion éthique. Il s'agit effectivement de prendre une décision pour autrui. Il s'agit de prendre une décision en situation d'incertitude. Il s'agit donc d'argumenter et de croiser des arguments différents sur le même sujet, en quelque sorte. Les parents n'ont forcément pas la même vision que des soignants, que des médecins, etc. Et c'est à la croisée de ces regards qu'en général on trouve un accord. C'est comme ça que nous faisons dans les décisions de limitation ou d'arrêt ou de poursuite ensuite des traitements vitaux chez des personnes qui ne sont pas en capacité d'exprimer leur avis. Et en général, dans la grande majorité des cas, nous arrivons à un accord. Mais vous voyez, pouvoir avoir une démarche éthique impose que chaque partenaire de la discussion accepte de modifier son avis sous l'influence des arguments d'autrui. Lorsqu'on est confronté à des approches très, irréductibles, des approches de personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas, mais en l'occurrence, je pense qu'ils ne peuvent pas changer d'avis, eh bien, l'accord est impossible. Et donc, du coup, que se passe-t-il ? On s'en réfère à la loi. Que dit la loi sur ce sujet ? Elle dit que en cas d'impossibilité pour la personne d'exprimer son avis, et à défaut de directives anticipées, Vincent Lambert n'a pas écrit de directives anticipées, il aurait écrit, préalablement à son accident, qu'il voulait ou qu'il ne voulait pas qu'on le réanime ou qu'on lui prodigue des soins artificiels, ça aurait changé totalement les choses. Les directives anticipées, au regard de la loi, s'imposent au médecin. En l'absence de directives anticipées, c'est le médecin qui est responsable de la décision, mais cette décision, il ne la prend pas seul, il doit préalablement l'argumenter, puis la discuter avec une équipe de soins, puis la confronter avec un consultant extérieur, et il doit prendre, bien entendu, en compte l'avis des proches.
C'est terrible quand même comme décision, ça veut dire que vous qui êtes médecin, Régis Aubry, comment vit-on ces moments-là ? Comment est-il possible de prendre une décision à cet égard ?
Oui, je crois que vous êtes au cœur, nous sommes au cœur de ce qui rend ce travail à la fois difficile et intéressant. Enfin, on est au cœur de l'humain lorsqu'il s'agit de décider, en quelque sorte, d'une considération de traitement comme une forme d'acharnement thérapeutique ou d'une considération de ces traitements comme le minimum que l'on doit à la personne. C'est terrible. Il y a quelque chose, effectivement, d'une très grande densité éthique et émotionnelle autour de tout cela. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, au plan des références qui guident nos pas dans ces discussion-là, il y a toute une approche que je qualifierais de philosophique. C'est une éthique de la discussion, un peu comme Jürgen Habermas l'avait travaillé dans ses écrits. C'est par la discussion que l'on arrive à trouver un juste milieu. Nous avons le sentiment, au terme de ces processus délibératifs complexes, que nous avons trouvé non pas la bonne réponse, mais celle qui est la moins mauvaise. Vous voyez l'espèce d'humilité qu'il faut avoir pour appréhender ces questions-là et le temps qu'il faut et le respect qu'il faut avoir pour les arguments différents pour arriver à trouver quelque chose qui nous semble être centré par le respect de la personne pour laquelle on décide.
Eh bien, c'est ce que l'on va continuer à évoquer en votre compagnie, Régis Aubry, dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous êtes médecin-chef du département douleurs et soins palliatifs du CHU de Besançon. Vous serez rejoint par Valérie Depatte, elle est maîtresse de conférences en droit privé et conseillère de l'espace éthique de l'Agence régionale de santé. 8h passées d'une minute sur France Culture, pardon pour le retard. 8h22, nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. Quelques heures après l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielle qui maintiennent en vie cet homme de 42 ans en état végétatif depuis 2008. La cour d'appel de Paris, saisie en dernier recours par ses parents, a ordonné à la surprise générale la reprise de ses traitements. La cour ordonne, je cite, à l'État français de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées, un organisme des Nations Unies qui a été saisi par les parents de Vincent Lambert. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Régis Aubry. Régis Aubry, vous êtes médecin-chef du département douleurs soins palliatifs du CHU de Besançon, président de l'Observatoire national de la fin de vie et membre du comité consultatif national d'éthique. Vous êtes en duplex depuis France Bleu Bourgogne et dans ce studio, j'accueille Valérie Depatte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en droit privé, conseillère de l'espace éthique, Agence régionale de santé Île-de-France. Alors, tout d'abord, Valérie Depatte, il faut nous expliquer en quoi l'ONU est saisie et en quoi a-t-elle la possibilité d'influer sur une décision de justice française.
Oui, alors la Convention relative aux droits des personnes handicapées date de 2006. Et la France l'a ratifiée en 2010. Donc en ratifiant un État quel qu'il soit, la France accepte que sa législation, voire ses pratiques relatives aux droits de l'homme et ici aux droits des personnes handicapées, soient examinées par des organes qui sont composés d'experts indépendants. Et la France s'est engagée à se soumettre à ces organes et elle est tenue en tout cas de leur présenter un rapport. Elle a 6 mois pour le faire.
Pourquoi la France s'est-elle soumise à cette législation? Quelle était la volonté de ces gouvernants français qui ont décidé de confier à l'ONU ces questions-là, ou en tout cas de se soumettre à des décisions de l'ONU?
L'objet de cette convention est de rendre effectifs les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Et dès le préambule, cette convention oblige les États qui s'y soumettent à reconnaître et à respecter la dignité de la personne handicapée. C'est une convention qui permet de s'accorder sur la protection de ces personnes.
Alors, qu'est-ce qui distingue cette cour de ces décisions de justice française? Puisque manifestement, il y a une différence d'interprétation. Pourquoi y a-t-il cette différence? Pourquoi dans un cas, on autorise la fin des traitements et dans l'autre, on demande de réinstaurer ces mêmes traitements?
Alors, ce comité n'est pas une instance juridictionnelle, c'est une instance consultative. Mais nous avons décidé de nous y soumettre. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir réexaminer, que des experts de leur comité examinent la situation de Vincent Lambert et que la France fasse un rapport. Maintenant, l'avis n'est que consultatif, mais en ratifiant, on s'est engagé à s'y soumettre.
Qu'est-ce qui pourrait modifier la décision de cette cour? Qu'est-ce qui pourrait modifier la décision de l'ONU? Est-ce que finalement, vous qui êtes spécialiste de ces questions, Valérie Depatte, qu'est-ce qui a motivé la cour, et cette fois-ci je parle des tribunaux français, qu'est-ce qui les a motivés dans leur décision de suspendre les traitements accordés à Vincent Lambert?
La cour d'appel a reconnu l'obligation que nous avions de répondre à la demande du comité des droits des personnes handicapées, de sursoir à la décision d'arrêt des soins pour qu'ils puissent eux-mêmes envoyer des experts qui vont analyser la situation.
Mais pour la décision antérieure d'un tribunal français, pourquoi a-t-on décidé d'arrêter le traitement?
On a décidé d'arrêter le traitement parce qu'on a estimé, après expertise, que Vincent Lambert était dans une situation d'obstination déraisonnable, c'est-à-dire que les soins qui lui sont prodigués, les traitements, l'hydratation et l'alimentation artificielle, relevaient d'une obstination déraisonnable. Mais je tiens à le dire, ce n'est pas parce qu'il est gravement handicapé, tétraplégique, possirelationnel, végétatif, peu importe. Ce n'est pas pour ça qu'on a arrêté les traitements. C'est parce qu'on a estimé que ces traitements relevaient d'une obstination déraisonnable.
Mais alors c'est justement ça, voilà, qui aujourd'hui pose problème.
Voilà. On bascule du soin bénéfique, j'ai envie de dire, à l'obstination déraisonnable, lorsque les soins deviennent inutiles, disproportionnés ou n'ont d'autre effet que le maintien de la vie. Ça, c'est la définition juridique. Mais on s'en aperçoit, cette définition, évidemment, laisse une marge d'appréciation et c'est sur cette marge d'appréciation, sur cette définition, qu'il y a divergence.
Pourtant, maintien de la vie, ça n'est pas rien, hein, Valérie Depatte.
Ce n'est pas rien.
On se dit même que ce devrait être, en quelque sorte, le but de toute décision médicale. Sur le plan juridique, en tout cas, on ne mesure pas très bien dans quelle mesure l'obstination déraisonnable est dissociée ici des souffrances qui seraient, par exemple, infligées aux patients. Parce qu'on comprend que dans certains cas, il y a de telles souffrances que l'individu peut décider d'en finir, c'est ce que l'on entend dans certaines histoires. Et pourquoi ici, il y a, semble-t-il, une dissociation?
Parce qu'ici, Vincent Lambert ne peut pas s'exprimer. Donc, les experts, je précise bien, je suis juriste, je n'ai pas expertisé Vincent Lambert en tant que médecin, mais les experts ont estimé que sa vie n'était que souffrance.
Docteur Aubry, que sait-on à ce sujet?
Pas grand-chose. Je crois que la modestie s'impose pour appréhender ces questions. Sait-on si une personne en état végétatif chronique souffre? On ne peut pas répondre à cette question. Et je pense qu'il faut admettre cette zone grise dans laquelle le non-savoir est plus important que le savoir. Néanmoins, chez une personne dont on ne sait pas si ce qu'elle vit est incompatible avec le sens, L'analyse de son parcours, l'analyse de son histoire, l'analyse de ses positions antérieures est quelque chose qui devient alors assez prégnant. C'est surtout sur ces bases-là que l'on prend, on peut être amené à prendre une décision de considérer que, en l'occurrence, nutrition et hydratation artificielle peuvent être considérées comme déraisonnables.
Et c'est justement ça qu'on comprend mal, parce que on se dit qu'il y a un problème si l'individu souffre, mais qu'est-ce qui permet de dire que celui-ci souffre ?
Je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui affirmer qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas souffrance. Mm-hmm. C'est pas autour de la question de la souffrance, et j'insiste pour dire d'ailleurs que lorsque l'on prend une décision d'arrêt de traitements vitaux, hein, comme c'est le cas là pour Vincent Lambert, ou comme c'était le cas, dans le doute sur la souffrance que peuvent générer cet arrêt, on administre ce que la loi française appelle une sédation profonde et continue jusqu'à son décès. On maintient, voire on augmente les traitements antalgiques qui peuvent exister. On a néanmoins, chez des personnes en état végétatif chronique, la capacité d'observer leurs réactions, parce qu'elles en ont. Il est maintenant démontré que des personnes en état végétatif chronique peuvent avoir des douleurs, ressentir des douleurs. Hein, j'ai récemment encore observé une personne en état végétatif chronique qui faisait une crise de colique néphrétique. Je peux vous dire qu'il était évident que le passage de ce calcul dans les voies urinaires s'accompagnait d'un inconfort manifeste chez le patient. Voyez donc qu'on a des capacités via l'observation et via des échelles que l'on utilise chez des patients qui ne peuvent pas s'exprimer, d'évaluer leur souffrance ou leur douleur. C'est indirect, mais c'est néanmoins une possibilité d'évaluation. Oui. Chez Vincent Lambert, autant que je connaisse son dossier, ça n'est pas tant la souffrance physique, la douleur éventuellement qui était la raison de cette décision d'arrêter les traitements, que le fait d'une volonté présumée et antérieure du patient qui a semblé prévaloir sur des opinions autres que celles qu'il avait exprimées antérieurement.
Valérie Depade, l'opinion de la juriste.
Alors là, c'est justement un problème. En France, on ne peut, du point de vue de la loi, tenir compte de l'opinion de la personne que si elle a rédigé des directives anticipées, c'est-à-dire des directives écrites, oui, signées et qui sont censées être réfléchies. Penser, c'est quand même une décision définitive. Le médecin, lors de la procédure collégiale, est tenu de prendre connaissance des témoignages des proches, mais il n'est pas tenu de les suivre. Il n'y a que les directives anticipées qui sont opposables au médecin ou le témoignage d'une personne de confiance. Or, dans le cas de Vincent Lambert, on ne dispose ni de l'un ni de l'autre. Alors, que le médecin entende, écoute, de toute façon, il est tenu de le faire, les proches, oui. Mais d'un point de vue juridique, on ne peut pas donner une portée opposable au médecin à ces témoignages. Et c'est ce qu'il fait. Vous savez, l'affaire Lambert, c'est un drame familial. Si la famille était d'accord, on n'en serait pas là.
Et précisément, en droit, comment juge-t-on ce type de choses? Quand on a d'un côté les parents, le demi-frère, de l'autre, la compagne, qui a raison, qui a tort?
Personne n'a raison. Personne n'a tort. On les entend. La compagne de Vincent Lambert rapporte ce qu'il lui a dit. Les parents défendent leur position. C'est ce qui rend la décision terriblement difficile. Il n'y a pas de consensus. Alors que, je pense que Régis Saubry confirmera, en général, on arrive, les médecins, dans un colloque singulier avec la famille, parviennent à un consensus. Il est très rare que le déchirement soit tel. Et c'est ce qui explique là où on en est, certainement.
Docteur Aubry, une réaction ?
Oui, je suis d'accord avec Valérie. En général, on n'est pas dans cette situation singulière de Vincent Lambert. Ce qui fait d'ailleurs qu'on en arrive là, c'est l'irréductible opposition des parents ou de la famille, au sein de la famille. Un des enjeux d'une démarche éthique, c'est d'arriver à trouver une position qui conduit à un accord. Entrer dans une démarche éthique signifie que l'on accepte que sous l'influence des arguments d'autrui, on peut faire un pas de côté, changer son avis et trouver un accord. Là, dans cette situation, il y a, comme je le disais, une forme d'opposition irréductible, d'impossibilité, je pense, pour les membres de cette famille de changer d'avis. Et donc, cet accord au sein de la famille ne pouvant pas se trouver, c'est vers le médecin, et je parle sous le contrôle de Valérie de Wapt, mais c'est vers le médecin, et en l'absence de directives anticipées, comme elle l'a bien explicité, c'est vers le médecin qu'on se tourne pour fonder une décision à la croisée d'avis divergents.
Mais alors, évidemment, la conséquence de tout cela, Valérie de Wapt, c'est que vous devez, vous, les juristes, entendre des médecins, traduire leurs termes, je veux dire, depuis un langage scientifique jusqu'à des considérations juridiques, et puis, bien entendu, leur faire confiance.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une procédure collégiale. C'est-à-dire que le médecin appelle d'autres médecins, il y a toute une équipe soignante qui fait partie de cette procédure collégiale. Et les proches sont entendus. In fine, c'est le médecin qui prend la décision. Même si je crois qu'en pratique, c'est une décision collégiale. Il ne la prend pas, ou certainement pas, en la fondant uniquement sur le témoignage des proches, s'ils ne sont pas personnes de confiance. Donc il y a certainement d'autres éléments qui justifient la décision d'arrêt des traitements, mais ces éléments font partie du dossier médical de la procédure collégiale qui relève du secret médical. C'est pour ça, je pense qu'on parle aussi de ce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quels éléments ont finalement, ou en tout cas pour quel pourcentage, ils ont pesé dans la décision du médecin. Elle relève du secret médical, heureusement.
Justement, je vais vous faire entendre un extrait des Pieds sur Terre hier qui était consacré à un médecin. Et ce médecin évoquait, durant l'émission de France Culture, la manière et les occasions où il avait été conduit à effectuer des actes menant à l'euthanasie d'un patient. On va l'écouter.
Je me suis retrouvé un jour avec le procureur de Vaucluse et il m'a dit « Vous, vous aimeriez bien que je vous mette en prison ?» Et il pensait à l'euthanasie et au fait que je dise publiquement que j'aidais des gens à partir. Et je lui dis « Oui, je sais bien, ce serait pas mal d'ailleurs, ça ferait un beau procès. » Et il me dit « Mais c'est justement pour ça que j'ai interdiction de vous attaquer. » En gros, ils veulent surtout pas qu'on médiatise. Parce que chaque fois qu'on médiatise, Chantal Sébir, Vincent Lambert, Bonne Maison, chaque fois que vous avez une médiatisation, toute l'opinion publique ne fait que pousser en disant « Ouf, ils ont bien fait d'aider les gens, ils étaient dans souffrance, ils demandaient à partir et on les a aidés à partir. » Donc en fait, ils n'ont pas intérêt. Et je crois que c'est pour ça que je ne suis pas poursuivi. On ne peut pas empêcher les gens de mourir. Et le fait que les euthanasies sont clandestines, ça met tout le monde très mal à l'aise. Ça met la famille dans une situation de porte-à-faux. Finalement, on laisse les gens craquer au lieu de leur faire des propositions. Ce qui est dégueulasse. Il faut absolument qu'il y ait une loi, quoi.
Un témoignage absolument poignant, c'est à retrouver dans les Pieds sur Terre d'hier, donc à podcaster, à télécharger. Votre réaction de juriste, Valérie de Wapt ?
Ma réaction de juriste, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. Nicolas Bonnemaison est un médecin qui a mis fin à la vie des patients sans prévenir leur famille, alors qu'ils étaient pour quelques jours dans son service, c'est un service d'urgence. On ne peut pas comparer ça avec l'acte d'un médecin qui serait le dernier acte finalement médical envers un patient qui serait effectivement d'arrêter sa vie, mais comme un acte de soin, parce que le médecin reconnaît qu'il est allé au bout de ses moyens pour soulager la souffrance. Nicolas Bonnemaison, c'est une affaire judiciaire.
Là, il ne s'agissait pas de Nicolas Bonnemaison.
Donc, j'ai entendu qu'on comparait.
La comparaison, certes, mais pour le reste, ce médecin qui racontait sa vie et qui était confronté à des questions de vie et de mort. Régis Aubry, votre point de vue de soignant ?
Alors, mon point de vue de soignant, que je n'arrive pas à dissocié de mon point de vue de responsable d'un espace éthique et d'un engagement à la réflexion, c'est qu'il faut faire très attention des positions des médecins quand elles sont individuelles. Un haut risque qu'il y a dans les décisions ultimes, c'est que ces décisions soient médiées uniquement par la subjectivité de celui qui les prend, ces décisions. Et donc, je sais gré au droit français d'avoir obligé à ce qui s'appelle une procédure collégiale dans la loi, mais qui correspond à un processus délibératif, discursif. Bien sûr que la tentation euthanasique existe lorsqu'on est confronté aux souffrances ultimes. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas agir seul. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il faut débattre l'envahissement du champ de sa propre conscience lorsqu'on est un médecin ou un soignant par des émotions, peut nuire gravement au fondement d'une décision gravissime comme celle-ci. Et je voudrais juste ajouter que je crois qu'il faut quand même être très très clair sur le fait qu'on ne parle pas d'euthanasie lorsqu'on parle des décisions qui correspondent à l'arrêt des traitements. Chez Vincent Lambert, j'ai vu ça dans la presse, je l'ai entendu, et le témoignage que vous nous rapportez pourrait faire craindre un amalgame sémantique. On n'est pas en face de la question de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est le fait d'administrer un traitement, un produit létal à une personne qui le demande dans l'intention de la faire mourir. La décision d'arrêt de traitements qui sont jugés déraisonnables, c'est une décision qui consiste à considérer qu'il n'y a aucune raison d'empêcher la survenue d'une mort naturelle. C'est quand même totalement différent. Dans le premier cas, la mort survient dans les minutes qui suivent une injection. Dans le second cas, on laisse le processus naturel qui conduit à la mort advenir. C'est totalement différent, me semble-t-il.
Valérie Depade, le point de vue de la juriste.
La loi de 2016, justement, essaie de pallier ces situations, puisqu'elle permet l'arrêt des traitements accompagné d'une sédation profonde et continue lorsqu'on estime, lorsque le médecin, au terme d'une procédure collégiale, estime la situation désespérée, ou alors lorsque le patient le demande. Donc il n'y a plus de raison de pratiquer une euthanasie, entre guillemets, sauvage, puisque la loi apporte des solutions, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas fait des propositions pour que le médecin puisse faire cesser la souffrance.
Justement, puisque il est question de savoir quoi faire dans des cas où rien n'est clair, la vie médicale est particulièrement important, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une vidéo qui a été tournée et disons invoquée par les parents, j'utilise un verbe neutre. L'avocat des parents de Vincent Lambert a salué, alors là je cite le terme qu'ils ont employé, une remontada après la décision ordonnant la reprise des soins. Est-on certain, docteur, que le coma dans lequel est plongé Vincent Lambert est un coma irréversible? Le terme de remontada qui a été utilisé par l'avocat des parents de Vincent Lambert a-t-il une signification ?
Écoutez, non. Non, je pense qu'on est face au méfait d'une médiatisation dans ce terme-là. Je crois me souvenir, même si je ne suis pas un amateur de football, que c'est un terme qui est utilisé régulièrement lorsqu'une équipe de football remonte au score après une déconfiture.
Je crois que vous avez raison.
Voilà, je pense que la comparaison s'arrête là. Les choses sont trop sérieuses pour qu'on puisse plaisanter là-dessus. Et ce terme n'est pas digne, à mon avis, d'un représentant de cette profession, me semble-t-il. On n'est pas face à une situation où on gagnerait quelque chose à avoir pensé qu'on l'avait perdu. Il s'agit probablement d'un combat pour des parties qui s'opposent. Mais moi, ce dont j'essaie de témoigner, c'est qu'il s'agit d'une réflexion profonde qui doit être menée avec beaucoup plus d'humilité que ne laisse penser ce type de terme ou d'échange. C'est une réflexion profonde sur ce que vivre veut dire, sur ce que souffrir peut signifier. C'est quand même autre chose que de parler de remontada.
Tandis que de l'autre côté, c'est ce qui témoigne de la difficulté de cette affaire, l'avocat de la femme de Vincent Lambert va porter plainte contre les personnes qui ont filmé et celles qui ont diffusé une réaction, Valérie Depade.
Oui, je souscris totalement aux propos de Régis. Si c'est un combat, c'est un combat sans victoire de toute façon. C'est avant tout l'histoire dramatique d'un homme. Maintenant, je crois que ces dépôts de plaintes contre les avocats sont avant tout l'expression du désespoir. Bon, évidemment, la plainte contre l'État français qui ne respecte pas la Convention a abouti, ça on la comprend maintenant, contre le médecin, contre l'avocat. Non, je crois qu'il faut pas donner plus d'importance ou en tout cas de sens juridique à ces démarches qu'elles n'en ont.
Docteur, prédire l'évolution de certains patients dans le coma, c'est toujours possible, c'est envisageable. Bref, là aussi, c'est une question qui se pose face au cas de Vincent Lambert.
Oui, une partie de la recherche en France, je pense à des travaux qui sont menés par le professeur Louis Pibasset à la Salpêtrière, porte sur cette capacité que nous pourrions avoir dans les années à venir à pronostiquer un état végétatif chronique. C'est quelque chose d'important, de mon point de vue, que d'essayer d'éviter, autant que cela est possible, des situations absolument épouvantables, comme celle de Vincent Lambert et des 1500 personnes qui se trouvent dans un état comme celui de Vincent Lambert en France. Je pense qu'il faut être conscient aussi, et c'est d'ailleurs une position qu'a eue le Comité consultatif national d'éthique lors de son avis 129 récemment, il faut être conscient que la médecine, si on n'y prête pas garde, peut générer des situations qu'on pourrait qualifié au plan philosophique d'aporétique, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de bonne réponse. Il faut donc, face à de tels potentiels d'une médecine qui serait des potentiels de dérive de la médecine, nous enseignons la réflexion éthique, nous enseignons le fait de réfléchir avant d'agir, de ne pas faire ou de ne pas réanimer au seul motif que l'on peut réanimer, et d'introduire la réflexion en amont, des situations catastrophiques comme celle de Vincent Lambert.
Valérie Depade.
Oui. Et ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, aucune loi ne va jamais répondre à l'ensemble des cas. Chaque cas, dans sa singularité, dans sa particularité, sa complexité, est un cas en lui-même. Voilà, aucune loi ne pourra permettre de régir la totalité des cas. Ce serait être naïf que de le croire.
Et oui, parce que, docteur Aubry, et cette affaire va probablement donner lieu à des discussions sur la loi Claeys-Leonetti. Celle-ci est-elle suffisante en l'état ?
Moi, j'ai le sentiment que la loi a été une très grande avancée. Je pense qu'elle est suffisante. Je pense que le fait qu'il y ait des zones d'incertitude.
Que dit-elle ? Rappelez-nous ce qu'elle stipule et pourquoi elle ne permet pas, dans l'affaire Vincent Lambert, d'avoir un consensus ou d'avoir une marche à suivre claire.
Donc, globalement, je parle sous le contrôle de Valérie Depape, qui est maître de conférence en droit, mais la loi interdit ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. C'est une des particularités du droit français. Elle fait reposer sur la personne malade la considération des traitements comme étant déraisonnables ou pas. C'est donc au malade de décider de cela, et quand le malade n'est pas en capacité d'exprimer son avis, elle fait reposer cette décision sur le médecin, avec un poids important des directives anticipées quand elles existent, puisqu'elles deviennent contraignantes. En l'absence de directives anticipées, la loi impose, dans les situations d'incertitude, quand les patients ne peuvent pas donner leur avis et que se pose la question d'un acharnement thérapeutique, la loi impose ce qu'on appelle des procédures collégiales.
Et je crois
Il y a donc des zones grises qui sont des zones de discussion, de délibération. La loi permet de considérer une situation dans sa singularité. Et c'est pour moi quelque chose qui reste indépendant, comme le disait Valérie Depape. Jamais, aucune loi ne permettra de résoudre des questions de nature singulière.
Valérie Depape.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la décision du médecin qui est prise in fine après la procédure collégiale est susceptible d'appel. C'est pour ça que les parents ont pu faire appel. Ça, c'est important de le dire. Ça explique aussi qu'on en soit là. Le Conseil d'État l'a bien rappelé. Les proches, l'entourage ont droit de faire appel de la décision du médecin, décision d'arrêt des traitements.
Ce qui signifie que cette loi, parce que c'est cela la difficulté, notamment, il y a beaucoup de difficultés, de particularités dans cette affaire Vincent Lambert, Valérie Depape, mais on voit bien que cette loi est soumise là aussi à l'interprétation de l'état du patient, lequel est bien entendu un avis qui doit être traduit depuis les termes médicaux jusque dans des termes juridiques, ce qui doit vous poser quand même des difficultés nombreuses.
Non, parce qu'on ne traduit pas. La décision relève d'une expertise médicale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et dès lors que l'expertise constate ou aboutit au constat que les soins prodigués relèvent de l'obstination déraisonnable, le médecin est en droit de les arrêter. Nous, en tant que juristes, on ne va pas aller vérifier l'état de santé. C'est à partir du rapport d'expertise, et je vous le répète, pour l'affaire Lambert, pour le cas de Vincent Lambert, les raisons de la décision médicale sont dans son dossier médical qui relève du secret médical. Donc on ne les connaît pas.
Une réaction et une conclusion, docteur Aubry, que peut-il se passer maintenant ?
Je crois que Valérie Depape l'a très bien expliqué. Il va y avoir, si j'ai bien compris, une nouvelle enquête ou en tout cas il va falloir
expertise.
Répondre une expertise à la demande de ce comité de protection des droits des personnes handicapées. Je crois que cet avis qui n'est pas contraignant. Ce qui se passe là, c'est la demande que soit respectée une procédure. Et donc, cette procédure va être respectée. Et ensuite, on basculera à nouveau dans cette question, au vu et au su de ce nouveau, de cette nouvelle expertise, de ce nouveau rapport, comment fonder la décision médicale en prenant en compte ce nouvel élément. Donc, de mon point de vue, la question qui se posait avant-hier, se posera à nouveau dans quelques mois à l'issue de ce travail, ce nouveau travail d'expertise.
Merci docteur Aubry. Je rappelle que vous êtes médecin-chef du département douleurs et soins palliatifs du CHU de Besançon. Vous étiez en duplex depuis France Bleu Bourgogne. Merci beaucoup Valérie Depape.
Merci à vous.
Vous êtes maîtresse de conférence en droit privé et conseillère de l'espace éthique de l'Agence régionale de santé Île-de-France.